Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources d'information. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une exploration qu'on va faire ensemble.
Bonjour. Bah écoutez, je suis très heureux d'être là pour décortiquer tout ça avec vous.
Alors, l'objectif de notre décryptage du jour, c'est d'analyser une série de documents économiques, des documents assez denses en fait.
Très dense, oui, et bourré de données stratégiques.
Voilà, ils sont tirés de l'édition de mars 2026 du magazine EcoBusiness. Et à travers ces pages, on va dresser le portrait d'un pays qui est en pleine ébullition sur l'échiquier mondial, c'est le Maroc.
C'est un cas d'école fascinant en ce moment.
Sauf que notre mission aujourd'hui, c'est pas de lire de simples bilans comptables à notre auditoire. Ce serait beaucoup trop ennuyeux.
C'est sûr, les chiffres seuls ne racontent qu'une petite partie de l'histoire.
L'enjeu de cette session, c'est vraiment de comprendre l'ingénierie complexe derrière une nation qui parvient à faire plusieurs choses en même temps.
En même temps, oui, et c'est là toute la difficulté.
Rassurer les marchés financiers mondiaux, attirer les géants de l'industrie verte, et en parallèle, gérer une demande interne qui est explosive. Ok, décortiquons ça.
Le cadre est posé et il est vaste. Vous savez, la croissance économique qui transparaît dans ces sources, c'est pas juste une question de pourcentage isolé sur un tableur.
C'est beaucoup plus concret que ça.
Exactement. C'est le reflet de choix très lourds en matière d'infrastructures résilientes et de géopolitique dans un monde qui se polarise à grande vitesse. L'idée aujourd'hui, ça va être de relier les points entre la macroéconomie la plus stricte et la vie quotidienne.
Et le point de départ de toute cette dynamique, si on suit les documents, ça remonte à un événement précis en septembre 2025.
La fameuse annonce de S&P.
C'est ça. L'agence S&P Global Ratings a relevé la note souveraine du pays à BBB-. C'est ce qu'on appelle le retour triomphal dans la cour des grands, la catégorie Investment Grade.
Et pour ceux qui suivent les marchés financiers, franchir ce seuil, c'est loin d'être anecdotique.
Pour utiliser une analogie simple, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme regagner un excellent crédit score pour un particulier. Un score qui avait été perdu pendant la tempête de la pandémie, en 2021, et qu'on regagne à force de discipline.
C'est une très bonne image. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette notation agit un peu comme un feu vert algorithmique pour la finance mondiale.
C'est-à-dire que ça déverrouille l'accès à des investisseurs qui ne pouvaient tout simplement pas venir avant.
Exactement, il y a toute une catégorie d'investisseurs institutionnels, comme les grands fonds de pension internationaux, dont les statuts interdisent strictement de placer le moindre centime dans des dettes classées spéculatives.
Donc le BBB, c'est le sésame.
Voilà, c'est la validation d'une trajectoire budgétaire très disciplinée. Et les retombées chiffrées détaillées par EcoBusiness sont immédiates. On parle d'une levée de fonds massive de 2 milliards d'euros.
À un taux moyen de 4,3%. Alors on pourrait se dire que 4,3% dans l'absolu, c'est pas de l'argent gratuit.
Non, c'est sûr.
Mais dans le contexte monétaire tendu qu'on connaît, obtenir ça sur les marchés internationaux pour une économie émergente, c'est une sacrée performance.
C'est même extrêmement compétitif. Sur des volumes de plusieurs milliards, gratter quelques points de base, ça représente des économies colossales sur le service de la dette.
Et ça crée un effet domino.
Mécanique. L'État donne le la, et d'un coup, le plafond de verre saute pour les autres acteurs économiques du pays.
C'est exactement ce que montrent nos sources avec le secteur bancaire privé. Atijari et Wafa Bank, par exemple, a vu sa note grimper en catégorie BB dans la foulée.
C'est qui réduit aussi leur coût de financement.
Tout à fait. Et la logique s'applique même aux instruments de placement locaux, puisque le fonds Upline Treasury Fund est passé à AFA. C'est tout l'écosystème qui en profite.
Mais si on relie ça à la situation globale, il faut regarder le contexte continental pour vraiment mesurer l'exploit. S&P souligne que le marché de la dette africaine est en pleine ébullition.
Avec des chiffres assez impressionnants.
Oui. Les levées de dette ont bondi de 40%. On est passé de 12,85 milliards de dollars en 2024 à près de 18 milliards en 2025, avec une baisse générale des coûts de financement de l'ordre de 100 points de base.
Donc l'argent coule à flot sur le continent africain?
Alors pas si vite, c'est là qu'il faut nuancer le tableau. Cette manne financière ne se répartit pas du tout de façon équitable. Le marché est devenu impitoyable.
Il y a clairement de vitesse.
Complètement. D'un côté, on a des pays qui s'améliorent grâce à des réformes parfois douloureuses. L'Égypte, le Kenya, le Togo, l'Afrique du Sud, le Ghana et la Zambie captent bien cette embellie.
Et de l'autre côté?
De l'autre, on a des pays qui souffrent terriblement. Le Botswana, par exemple, est lourdement pénalisé par l'effondrement des cours du diamant. Le Sénégal, de son côté, est freiné par un mur de dette.
Dans ce paysage très contrasté, le Maroc utilise donc son investment grade comme un aspirateur à capitaux.
C'est l'avantage comparatif ultime.
Et cette capacité à attirer l'argent nous amène directement à la deuxième grande partie de notre exploration. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah, le grand écart géopolitique.
Exactement. Parce que les flux financiers ne se limitent pas à de la dette obligataire. Les rapports pointent un basculement hallucinant au niveau des investissements directs étrangers, les fameux IDE.
Le ras de marée asiatique.
Un ras de marée chinois, pour être précis. Les IDE en provenance de Chine ont explosé de 149,7% en 2024. Le volume a atteint 1,7 milliard de dirhams à fin septembre et en projette plus de 2,2 milliards sur l'année complète.
Ce n'est plus du tout du commerce classique. Les industriels chinois délocalisent physiquement des segments entiers de leur appareil productif.
Et quand on regarde les projets listés dans EcoBusiness, ça marque les esprits. On ne parle pas de petites usines d'assemblage.
Non, on parle d'industries lourdes et stratégiques.
Tinci Materials, par exemple, qui injecte 2,8 milliards de dirhams à Jorflasfar pour les composants de batteries électriques.
Un secteur clé pour la transition mondiale.
Anador, c'est Bowe Alloy qui pose 150 millions de dollars pour produire des alliages de précision. Et dans le textile, le groupe Sunrise met 2,3 milliards pour des complexes à Skirat et Fès.
C'est colossal. Et ça soulève une vraie question stratégique. Pourquoi cet engouement spécifique de Pékin pour cette région maghreb ?
Face au protectionnisme occidental, on imagine.
C'est exactement le pourquoi du comment. Face aux barrières douanières de plus en plus hautes en Europe et aux États-Unis, la Chine sécurise son accès.
En s'implantant juste à la porte de l'Europe.
Voilà. Ils s'adossent à l'infrastructure géante de Tangemed et surtout, ils exploitent les accords de libre-échange existants. Le pays devient un tremplin légal pour contourner les tarifs punitifs.
Les chiffres bilatéraux donnent le vertige. 59,8 milliards de dollars d'échanges sur les 7 premiers mois de 2025. Le pays est carrément devenu la deuxième destination mondiale pour les technologies bas carbone chinoises.
Mais dans ce grand jeu d'échecs, l'Europe ne reste pas passive.
Heureusement pour l'équilibre géopolitique.
Il faut équilibrer l'analyse en regardant le contrepoids européen, principalement via la Banque européenne d'investissement.
La fameuse BEI.
Oui, sa branche EIB Global a déployé 9 milliards d'euros dans le monde en 2025. Et sur cette somme, 3,1 milliards sont allés directement à l'Afrique.
C'est plus d'un tiers de l'enveloppe globale.
Et le détail crucial, c'est que 46% de ces fonds sont fléchis strictement vers l'action climatique, dans le cadre de l'initiative Global Gateway de Bruxelles.
Et le Maroc en est un bénéficiaire majeur, mais pour des projets très différents des usines de batteries chinoises. On parle d'infrastructures de survie presque ici.
C'est l'impact humain de la géopolitique. L'Europe finance la résilience face au choc climatique. Le stress hydrique, par exemple, est une urgence absolue.
Sans eau, il n'y a pas de stabilité sociale et encore moins d'industrie. L'autre grand volet européen, c'est la reconstruction post-séisme d'Al-Ouz. Où les bailleurs n'ont pas juste financé du béton, mais des écoles, des routes et des hôpitaux qui respectent des normes parasismiques et écologiques de pointe.
C'est la stratégie européenne. Ils apportent la norme et la résilience, pendant que l'Asie apporte l'appareil productif de masse.
Mais tout ça nous amène à un paradoxe interne qui est décortiqué dans la troisième partie de notre analyse. Parce que faire tourner des giga-usines et reconstruire des régions entières, ça demande de l'énergie.
Beaucoup d'énergie. Et c'est là que la machine interne montre des signes de tension.
Le paradoxe énergétique mis en lumière par l'Office national d'électricité est fascinant. La production électrique nationale augmente, ce qui est une bonne nouvelle.
Elle augmente de 5%, oui.
Portée d'ailleurs par le privé à plus 7%, l'ONE à plus 4,2% et les fameux tiers nationaux qui explosent à plus 50,9%.
Sur le papier, c'est un réseau qui monte très fortement en puissance.
Sauf que, et c'est le grand mais de l'histoire, la demande explose encore plus vite. Ce qu'on appelle l'énergie nette appelée affiche une croissance de 7,3%.
Cela soulève une question importante sur la soutenabilité du modèle à court terme. Cet effet ciseau entre les 5% produits et les 7,3% demandés crée un déficit immédiat.
Et la conséquence directe pour éviter le blackout, c'est l'importation. Les importations d'électricité ont bondi de 34,8% pendant que les exportations chutaient de 44,2%.
C'est un défi structurel majeur. Un pays qui se positionne comme le futur hub de l'énergie verte mondiale est pour l'instant obligé de tirer sur les câbles de ses voisins pour alimenter ses nouvelles usines.
C'est le prix d'une croissance accélérée.
Absolument. Mais l'horlogerie financière interne ne se limite pas à l'énergie. Il faut aussi financer le développement de l'arrière-pays pour éviter la fracture avec les grands pôles industriels.
C'est le rôle du Fonds d'équipement communal, le FEC, qui est très bien documenté dans EcoBusiness.
C'est le banquier des collectivités locales.
3,4 milliards de dirhams de prêts accordés en 2025, soit une hausse de 31%. Ces fonds vont directement dans les routes locales et les projets de résilience dont on parlait.
Et ce qui est intéressant avec le FEC, c'est la rigueur de sa gestion. On n'est pas dans un système de subvention à fonds perdus.
Non, c'est géré comme une banque d'affaires. 90% de leur portefeuille de prêts présente des risques faibles.
Ce qui rassure totalement les marchés. Leur dernière émission obligataire a été sursouscrite 1,48 fois. Ils ont aussi attiré 150 millions d'euros de la Banque africaine de développement.
Et ils dégagent un produit net bancaire stable de 659 millions de dirhams.
La santé insolente du secteur financier local est d'ailleurs un fil rouge de ce numéro de mars 2026.
Ah oui, les chiffres du privé sont assez incroyables. On pense à Saham Bank qui franchit la barre astronomique des 62 milliards de dirhams de produits nets bancaires.
C'est un indicateur de résilience très fort face à l'inflation mondiale.
Et il y a aussi des manœuvres internes très subtiles qui montrent la maturité du marché. L'opération du groupe Prisma, par exemple.
Très bon exemple.
L'autorité des marchés a validé une augmentation de capital interne de 50 millions de dirhams à 270 dirhams l'action.
Une opération réservée au management, si je me souviens bien.
Exactement. Le but, c'est d'aligner financièrement les dirigeants sur la performance à très long terme de l'entreprise.
C'est une mécanique d'intéressement très anglo-saxonne dans l'esprit, qui verrouille la stratégie de croissance.
Pour finir sur cette gestion de l'argent public et privé, il y a une anecdote dans les sources qui m'a vraiment marquée.
Sur la trésorerie de l'État.
Oui, la direction du Trésor et des Finances extérieures, la DTFE, l'optimisation est poussée à un niveau presque clinique.
C'est un détail fascinant de l'ingénierie financière de l'État.
Ils ont placé 2,6 milliards de dirhams d'excédents sur le marché monétaire, ce qu'on appelle une prise en pension. Mais ce qui est fou, c'est la durée.
Pour une seule journée ?
Une seule journée de placement à 1,63%.
L'État se comporte comme un trader ultramoderne. Ils ont des milliards disponibles pour 24 heures. Ils ne les laissent pas dormir. Ils vont chercher un rendement au cordeau.
C'est cette accumulation de micro-optimisation qui, à la fin de l'année, permet de présenter des ratios irréprochables aux agences de notation pour garder le fameux BBB-.
La boucle est bouclée.
Alors qu'est-ce que tout ça veut dire si on prend un peu de hauteur?
C'est la grande question.
Cette exploration de nos sources démontre qu'une économie florissante aujourd'hui, ça nécessite de jouer sur absolument tous les tableaux.
Sans exception.
Il faut rassurer les agences de notation avec des finances publiques gérées à l'euro près ou au dirham près. Il faut capitaliser sur sa géographie pour aspirer l'industrie asiatique.
Tout en captant les fonds verts européens pour financer la résilience locale face au choc climatique.
C'est un numéro d'équilibriste impressionnant.
Et il faut garder à l'esprit que les chiffres, les milliards d'idées ou même la note BBB- ne sont pas une fin en soi, ce sont de simples leviers.
Des outils pour bâtir la suite.
Exactement. Construire un avenir solide, sécuriser l'eau pour les populations et moderniser le réseau électrique. L'économie au service du territoire, en somme.
Ça me donne d'ailleurs envie de partager une dernière réflexion avec notre auditoire avant de se quitter.
Allez-y, on vous écoute.
Quand on voit comment un pays peut s'insérer si habilement entre des mastodontes comme la Chine et l'Europe pour devenir un carrefour indispensable de la transition énergétique...
Un pays connecteur.
Voilà, un pays connecteur. Est-ce que ce modèle économique ne va pas devenir l'unique voie de survie pour les marchés émergents?
C'est une excellente question.
Dans une mondialisation qui se fragmente à cause des guerres commerciales, ceux qui ne parviendront pas à se rendre indispensables aux deux blocs risquent peut-être d'être totalement effacés de la carte économique de demain.
C'est une vraie question à méditer en profondeur. Le rôle de carrefour semble être devenu le nouvel or noir.
Une perspective qui invite à regarder la carte du monde autrement. C'est la fin de notre plongée approfondie du jour.
Merci pour cet échange, c'était passionnant.
Merci à vous. On continuera d'explorer ces dynamiques dans nos prochaines analyses. À très bientôt.